Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, des jeunes et des moins jeunes qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de femmes et d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures, tout en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe réservés aux plus riches. Le progrès des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Alors, nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes d'une minorité capitaliste. Il faut que nous fassions entendre le camp des travailleurs. Quand on appartient au monde du travail, voter pour Le Pen, Fillon, Hamon ou Macron, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts. C'est tendre le bâton pour se faire battre, parce que tous ces candidats aspirent à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils sont socialement étrangers à la classe ouvrière. Et on le mesure par exemple parfaitement avec l'affaire Fillon. Bon, vous avez peut-être raté quelques épisodes, mais en gros, vous avez compris l'histoire. Hein. Fillon, aujourd'hui, se dit victime d'un acharnement médiatique. Mais il reste droit dans ses bottes. Parce que, comme il le répète en boucle, il n'a rien fait d'illégal. Comme si c'était cela, le problème. Fillon ne se rend même pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses propres actes. Il ne se rend pas compte que 900 000 euros pour sa femme, 80 000 euros pour ses enfants, 45 000 euros d'indemnité de licenciement, cela sonne comme une insulte pour les ouvriers, pour les chômeurs. Mais en réalité, ce sont les mêmes comportements que l'on retrouve dans le monde bourgeois et avec tous ces PDG, tous ces grands actionnaires qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez et qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors oui, Fillon est bien à l'image de ces gens-là. Il est socialement étranger au monde du travail et il est politiquement hostile aux travailleurs. Il ne le cache pas, d'ailleurs, parce qu'il a le mérite, si l'on peut dire, lui, d'annoncer la couleur. S'il est élu, ce sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Mais regardez comment en face, à gauche, les Hamon ou les Macron cherchent encore, eux, à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA et aidé le patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail et à licencier. Et les voilà aujourd'hui qui nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche. La remise des bus sur la route, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par ses auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, oui, mais ils sont surtout libres de s'auto-exploiter pour le compte des grands groupes capitalistes. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition du revenu universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022, parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et, sous-entendu, donc, de plus en plus de chômeurs. Et cela a réussi pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Cela a suffi, hein, cela a suffi, hein, pour que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Et il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors, il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. Et la plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les seules entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards en une seule année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous demandons. C'est une politique qui réponde à nos intérêts, avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné et logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation, le droit d'avoir une retraite décente. Et puis ceux qui, parmi les travailleurs, se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens, se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise, attachée à l'ordre capitaliste. Comme les autres, elle reprend tous les mensonges patronaux, en expliquant par exemple qu'il faut baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, sous prétexte de rendre compétitives les entreprises, eh bien elle justifiera, comme tous les autres, l'allongement du temps de travail, les baisses de salaire, la réduction des cotisations patronales. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle parle, c'est vrai, des chômeurs et des plus pauvres. À condition, bien sûr, qu'ils soient français. Parce que Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes et de la xénophobie pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Et vous l'avez entendu sur l'agression du jeune Théo, dont le nez sous bois. Alors que la violence et le racisme de cette agression sont manifestes, elle n'a pas dit un mot pour dénoncer les policiers. En revanche, elle se sert des échauffourées qui ont éclaté pour déverser sa bile contre la jeunesse des quartiers populaires et contre l'immigration en général, qu'elle associe systématiquement aux voyous, à la racaille et aux zones de non-droit. Mais si ces quartiers sont des zones de non-droit, ce n'est pas parce que la police y est mal accueillie. C'est parce que les droits de cette jeunesse sont bafoués en permanence, parce qu'ils n'ont droit qu'à un succès d'année d'éducation, parce qu'ils sont cantonnés au petit boulot mal payé et rejetés dans le chômage, parce qu'ils subissent justement les humiliations racistes et les discriminations qui les relèguent et les marginalisent dans des ghettos de plus en plus pauvres. C'est parce qu'il y a des dirigeants comme Le Pen, qui veulent mettre de l'huile sur le feu, parce qu'ils font de ces idées racistes leur fonds de commerce électoral. Et plus largement, quand dans cette campagne, Le Pen s'en prend aux étrangers, en voulant taxer leur contrat de travail, ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants, eh bien c'est abject. Parce qu'elle s'en prend à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, divisée pour régner. Alors oui, Le Pen est bien la digne représentante de la bourgeoisie. À l'opposé de tous ces gens-là, des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon, qui se prépare à servir la bourgeoisie, eh bien, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, eh bien, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Alors, ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est la dictature du grand capital sur l'économie ou l'intérêt collectif des travailleurs et de la société. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont eux aussi à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas des chauffeurs VTC contre la plateforme Uber et c'est le cas des agriculteurs aussi contre la grande distribution. Et puis je le précise, parce que justement dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité de Le Pen que d'opposer les travailleurs les uns aux autres en fonction de leur nationalité et de leur confession. Elle sème ainsi la haine et le rejet de l'autre et elle favorise en retour le repli communautaire. Alors dans cette élection, eh bien je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des enseignants. Alors il faut serrer les rangs, il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous, et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et dans cette élection, eh bien, il faut affirmer nos intérêts, nos besoins et notre politique. Faire entendre nos intérêts à l'opposé de la politique pro-patronale des autres candidats est ce qu'il y a de plus utile à faire dans cette élection. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai 2017 sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué, il ne faut pas marcher dans cette escroquerie. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien, ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous, disons tout le mal que nous pensons de cette société capitaliste. Et parallèlement à leur comédie électorale, eh bien, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre de des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, y compris quand on a perdu son boulot, il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. Et la première mesure de bon sens, eh bien, c'est d'arrêter l'hémorragie de fermeture d'entreprise. Ici, dans la région, Imperial Tobacco veut fermer l'usine Seita de Rion. Après avoir fermé celle de Morlaix, Dijon, Lille, Metz, Strasbourg et Carquefou. Et pourquoi cette multinationale richissime veut-elle se débarrasser de cette nouvelle usine? Eh bien pour s'assurer une augmentation de 10% de ses dividendes. Eh bien, il faut l'en empêcher en lui interdisant de fermer cette nouvelle usine sous peine de réquisition. Dans cette période de crise, alors que tout le monde convient que le chômage est le fléau qu'il faut combattre, oui, il faut prendre des mesures contraignantes. Il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois, à commencer par tous ces grands groupes, comme Imperial Tobacco ou comme Michelin, qui affichent des bénéfices records. En plus d'être des grands fabricants de pneus pour Michelin, de voitures pour Peugeot, tous ces grands groupes sont des grands fabricants de chômeurs. Eh bien, on ne peut pas leur laisser le droit de ravager des régions entières. Et puis, parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot par-ci, par-là. Et puis, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Parce que dans presque toutes les entreprises, que ce soit dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail auxquels il faut rajouter le temps de transport sont devenus insoutenables. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant à côté des emplois, de vrais emplois avec un salaire complet. Il faut faire exactement le contraire de ce qui se passe dans quasiment tous ces grands groupes, avec ces plans de compétitivité qui concentrent le travail sur de moins en moins de salariés et qui mettent des salariés sur le carreau. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignantes dans les hôpitaux? Regardez l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants? Pour ce qui est des logements, il en manque 1 million accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire, que ce soit dans les transports, dans tous les services publics. Eh bien, en face, il y a autant d'emplois à créer. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production, avec la robotisation, les gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Même s'il y a moins de travail, on peut toujours le répartir, ce travail, et le transformer en autant d'emplois que nous avons besoin. Parce que ces robots et les gains de productivité devraient, au contraire, permettre de soulager tous les travailleurs, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Mais bien sûr, cela suppose que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Mais nous n'avons pas le choix, parce que si nous laissons faire ce grand patronat, eh bien ce n'est pas 6 millions de chômeurs que nous comptabiliserons, mais 7, 8, 9 millions. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Je le redis, le chômage est le fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Parce qu'il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi parce qu'il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre, le rejet de l'autre, la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent tous que c'est impossible d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payé par les entreprises parce que, dit-elle, elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir. Les privations qu'ils s'infligent parce qu'ils sont payés au lance-pierre, elles n'existent pas. Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent des difficultés des travailleurs. Eh bien, ce n'est pas notre cas. Alors oui, nous sommes pour l'augmentation des salaires et nous sommes pour l'augmentation du SMIC. La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer ou le crédit logement et parfois davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable, il faut payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 4 ou 500 euros minimum qui s'en vont. Il faut encore payer les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. Et à la fin, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation. Et avec les enfants, c'est encore bien plus serré. Alors oui, 1 800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et pour les pensions de retraite. Quant aux minima sociaux comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé, eh bien ils doivent être transformés en salaire. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. Et ces 1 800 euros ne sont en réalité qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC net était de 1 000 euros. Aujourd'hui, il est de 1 150 euros. En 10 ans, donc, il a augmenté de 15%. Et savez-vous de combien ont augmenté les salaires des PDG en 10 ans ? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros net par mois et une augmentation générale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes, des péages d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, sa facture d'électricité avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que tous les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Alors voilà notre programme en termes de lutte contre le chômage et de salaire. De bonnes âmes, hein, en général très bien payées, hein, m'ont déjà expliqué à maintes reprises que ce programme est complètement utopique et qu'il forcerait nombre d'entreprises à mettre la clé sous la porte. Je parle de 1 800 euros par mois et on me parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer vivre sans avoir à compter le moindre euro. C'est de l'utopie d'espérer pouvoir se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants, le permis. Les Carlos Ghosn, les Tavares, les PDG des grandes entreprises, les Arnault, Bettencourt, avec leurs dizaines de milliards, ne vivent pas, eux, dans l'utopie. Ils vivent dans le monde réel, ils vivent dans notre monde. Alors quand on entend dire que 1 800 euros, c'est de l'utopie, eh bien c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Parce qu'en réalité, pour y parvenir, eh bien il faudra renouer avec les luttes collectives puissantes et imposer un rapport de force avec le patronat, un rapport de force tel qu'ils prennent peur et qu'ils cèdent sur toutes ces revendications. La société est riche, très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins, sur leur fortune accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle nous devons aussi imposer le contrôle sur tous ces dirigeants. Il est de bon ton aujourd'hui de parler de transparence. Pour les politiciens. Mais ces mêmes politiciens empêchent les travailleurs de la faire, cette transparence. Y compris quand les journalistes lèvent des lièvres, vous les entendez tous s'indigner. Hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire Fillon. Et regardez comment ce monsieur, Fillon, se dit offensé qu'on lui demande aujourd'hui des comptes, alors qu'il est quand même candidat à la présidence de la République. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Et c'est pareil pour les chômeurs, qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, fournir des preuves, justifier de leurs demandes s'ils repoussent un rendez-vous. C'est la même chose quand on est en arrêt maladie, y compris quand on souffre d'une maladie grave. Alors oui, bien sûr, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG. Quand je parle là d'assistante, je parle d'une assistante réelle, pas d'un emploi fictif, évidemment. Parce que justement, cette assistante, eh bien, elle le prépare, le courrier. Elle le tape, elle l'envoie collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires. Les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions qui sont prises à l'échelle d'une entreprise et sur l'argent qui circule dans cette entreprise. Les patrons le savent. Et en fait, ils le craignent. Et c'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel. Eh bien, il faut revendiquer de supprimer ce secret professionnel. Cette mesure est un objectif essentiel parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en nous donnant de nouvelles armes. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs et des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et puis prendre l'initiative aussi pour imposer leurs intérêts. Et alors, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Et puis on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher massivement dans tous ces grands groupes capitalistes. Alors voilà notre programme. Ce n'est pas, comme tous les autres candidats, un catalogue de promesses numérotées qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle tout simplement de nos besoins à tous. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme les bases d'un système établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte et nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que, justement, nous sommes prêts à le combattre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de ses intérêts. Sans comprendre où sont nos amis, nos faux amis. Et tout cela se forge dans le combat politique, dans le combat des idées. Le premier tour de cette élection présidentielle nous en donne l'opportunité. Eh bien, il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, s'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est parce qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent aussi en dehors, après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin d'exprimer nos intérêts à un moment donné, nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes aux intérêts inconciliables et que nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent très bien se passer du grand capital parce que ce sont eux qui font tout fonctionner dans la société. Alors voter, ce n'est pas encore construire ce parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau et d'élection en élection, de mouvements de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors votez et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. Et à gauche de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Eh bien, il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1300 euros par mois, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin, très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. C'est bien beau de dénoncer la finance. Je vous rappelle quand même que Hollande l'avait fait superbement en 2012, dans un discours, le discours du Bourget. Mais en réalité, il faut dire si on est prêt ou pas à la renverser, la finance. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la bourgeoisie. Pas la propriété privée de la bourgeoisie sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, nous dit-il. Ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les capitalistes. C'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Sanofi, le grand maître des médicaments. Mais quand on appartient au monde ouvrier, quand on est exploité, eh bien on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou une 6e République, ou qu'elles se décident à l'échelle européenne. Parce qu'on est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, le pouvoir de nous verser un salaire entier ou pas, le pouvoir de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout, pour le choix de son métier, pour le choix de son poste de travail, pour le choix de son lieu de travail. Y compris quand on est étudiant, comment choisit-on ses études? En fonction de ses passions, de ses envies? Non. En fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors non, parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. C'est faire croire aussi qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs de France et la bourgeoisie de France. Alors laissons ces mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète et émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Alors bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi. Parce qu'il est compatible avec le système. Parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les quelques centaines de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à exprimer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Et, eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour le porter à l'Élysée, eh bien notre campagne nous aidera, nous, à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce vote, pour faire entendre le camp des travailleurs, sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies, il faut que le mouvement ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. La bourgeoisie, les actionnaires, les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Mais ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnauds sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans conducteur de train, sans pilote d'avion, sans cuisinier, sans majordome. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux et leurs usines, où feraient-ils fructifier leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Cette année, nous fêtons le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les ouvriers et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas et pour en créer une autre, radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit. Une société et une économie d'abord organisée pour répondre aux besoins de toute la population. Eh bien, il faut connaître cette histoire. Parce que le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de toute la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Il a réquisitionné les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, chose très importante, ce pouvoir révolutionnaire a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Et il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associées à tous les niveaux du pouvoir. Quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé tout cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé dans le passé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Et il ne s'agit bien sûr pas que du passé, mais aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir imposer, à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement ou à la haine de l'autre, et il fait le lit de la délinquance et de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés, que l'on oppose aux centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Sur le fond, sur cette question des frontières, regardez comment les principaux candidats sont d'accord. Il faut toujours élever des frontières de plus en plus hautes et les rendre de plus en plus étanches. Ils nous répètent tous en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot et les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Parce qu'au fond, ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas espérer tous avoir un emploi ou qu'on ne peut pas espérer avoir la retraite à 60 ans. En tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Alors, ce n'est pas seulement une question de solidarité, c'est aussi notre intérêt que de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation de tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre pour se partager la misère, c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Les travailleurs sont de toute nationalité, de toutes les religions et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui corresponde à leurs intérêts, c'est celle de se libérer de l'exploitation. Voilà pourquoi, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, les travailleurs représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales et aussi du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors voilà ce que représente pour nous le camp des travailleurs, la perspective d'une société communiste. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, plus de classe ouvrière. Aujourd'hui, on entend même parler des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, nous sommes quoi ? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers sont composés d'actionnaires, de rentiers ? Bien sûr que non. De travailleurs, de salariés, de chômeurs. Et l'économie que l'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs de taxi qui étaient fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés en tant que salariés. Alors oui, bien sûr, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière, parce qu'il y avait beaucoup de réserves dans les bureaux, dans les ateliers, dans toutes les entreprises. Eh bien, il faut que la classe ouvrière s'exprime sur la scène politique. On nous met dans la tête que l'élection sert à élire quelqu'un, le prochain président de la République. Avec cette logique, forcément, il faut parier sur le tiercé de tête, et moi, je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président de la République qui nous portera les coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous voteriez pour le choisir ? Eh bien, dans cette élection, c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera encore reculer les retraites, qui donnera plus de liberté pour que les patrons nous exploitent, qui baissera nos conditions de vie et de travail. Alors il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être de chercher à élire l'un plutôt que l'autre, mais l'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature, sans craindre d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire ? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012 ? Et il faudrait recommencer avec un autre ? Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire pour essayer de se protéger est encore un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas non plus une preuve de conscience ou de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis c'est déserter, parce que si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera ? Personne ne se battra à notre place. Alors parfois, il est difficile de se battre, et on n'en trouve pas les moyens. On ne trouve pas le moyen de faire grève, de manifester, ou simplement de protester, parce qu'on est seul, parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne, c'est un geste à la portée de tous et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, eh bien la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Oui, nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, et quand tout ce courant nous pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis donc la candidate de lutte ouvrière, il fallait un nom. Hein, c'est comme ça que les institutions sont faites. Et mes camarades m'ont choisi pour porter cette campagne. Mais évidemment, ce n'est pas une campagne individuelle ou personnelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Parce qu'une campagne comme celle-ci, relayée à l'échelle nationale, eh bien, elle permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, eh bien, il y a des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui partagent à un degré ou un autre ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp. Elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions et c'est déjà quelque chose de très important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, qui sont perdus. Il y a encore tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent même pas entendre parler de politique ou de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher. En prenant le temps de la discussion, il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir fait avancer ces idées parmi les nôtres est important. Oui, nous sommes une petite organisation. Mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Vous l'avez donc compris, pour que cette campagne soit réussie, pour que ce soit une bonne campagne, eh bien, il faut que ce soit une campagne militante, il faut que ce soit notre campagne, il faut que ce soit votre campagne. Et pour conclure, juste un petit effort de projection dans l'avenir. Hein, qu'est-ce qui se passera en mai prochain? Qu'est-ce qui aura changé pour nous après cette élection? Eh bien, on ira au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires, invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire, qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. Et puis, on se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, rien de fondamental n'aura changé pour nous, parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leurs pieds. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives.